Eh bien moi, je persiste donc à sonder les eaux troubles de notre imaginaire parce que un peu de pénombre dans un monde surexposé, eh bien ça repose les yeux. Et la question que je me suis posée cette semaine, c'est qui sont les zombies ? Et pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux dans nos fictions où les zombies croissent et se multiplient et se déplacent en horde, toujours aussi abrutis et voraces ? Pas plus tard que cette semaine, dans le dernier épisode de la saison 7 de la série Game of Thrones, une armée de centaines de milliers de morts a commencé à déferler sur les royaumes des Sept Couronnes. L'univers de fantasy moyenâgeuse du Trône de Fer a donc rejoint celui de Walking Dead, autre série bien connue, à croire qu'un zombie, ou mieux une horde, ou mieux une armée de morts-vivants, plus il y en a mieux c'est, une armée de zombies reste le meilleur allié du succès économique. Du reste, George Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts-Vivants, hein, donc le premier film culte de zombies qui était sorti en 1968, il a avoué volontiers dans les interviews qu'il avait d'abord cherché à tourner un film avec un budget limité. Son problème, c'était à la fois celui du créateur et de l'investisseur, hein, problème qu'on connaît bien tous autour de cette table. Et la réponse à cette double contrainte, créativité et rentabilité, a été, je vous le donne en mille, le zombie. Mettre en scène des zombies, ça ne coûte pas cher. Ça peut fonctionner avec un peu de maquillage, sans trop d'effets spéciaux, ni comédiens chevronnés. Parce que vous l'avez remarqué, un zombie a faim. À part ça, il ne semble pas éprouver d'émotions particulières, même quand on lui crève un œil ou qu'on lui arrache un bras. Le jeu d'acteur reste maîtrisable. Un zombie qui a faim peut être interprété par un figurant qui a faim, contrairement à un vampire par exemple. Le zombie n'est pas une star, il n'est jamais seul en scène ou son absence d'intelligence finirait par lasser. C'est une horde, George Romero parlait d'une masse informe revenue d'entre les morts. L'avantage de la masse informe dans les films de morts vivants, c'est que la bêtise des zombies, leur voracité et leur résistance au plan intelligent des humains justifie ce sadisme qui réjouit tant le spectateur. Qu'on les brûle, qu'on leur crève les yeux, qu'on leur arrache les membres et qu'on les abatte en masse. Et c'est là, dans l'abattage de masse, que le zombie prend toute sa dimension. Pas étonnant que le film de Romero soit sorti en 1968, comme je le disais tout à l'heure, soit 6 ans après la sortie de Silent Spring, le printemps silencieux, le livre de Rachel Carson sur les effets des pesticides sur l'extinction des oiseaux, qui fut à l'origine du mouvement écologiste. Il y a un lien entre la masse informe et ce que nous appelons le vivant ou la matière vivante, comme si les êtres autres qu'humains n'étaient que de la matière. Un lien entre l'armée des zombies et la disparition des espèces. Enfin, ça n'est que mon avis. Un lien entre les zombies et les millions d'animaux, une masse informe que nous abattons sans regret mais non sans cruauté, après les avoir gavés d'antibiotiques ou de fipronil. Pour Homer, les oiseaux, ce sont les esprits des morts. C'est intéressant, hein, il y avait aussi le film d'Hitchcock, Les oiseaux, 62, je crois, à peu près. La masse des espèces disparues commencerait-elle à nous hanter ? Les zombies auraient-ils quelque chose à dire sur la planète ? Bien possible, hein, lorsqu'on entend Jon Snow, donc l'un des héros de Game of Thrones, supplier les souverains d'oublier leur rivalité, parce que la vraie catastrophe, c'est l'armée des morts, c'est-à-dire la mort de leur environnement. Pour les convaincre du danger, il leur amène, Jon Snow, un mort vivant dans une petite caisse et il leur montre que c'est vraiment très grave. Alors je ne sais pas s'il faudra aller jusque-là pour convaincre Donald Trump que plus on est vorace, moins on est vivant.